RCF.
Il est 7h30, c'est le journal de la rédaction de RCF, présenté par Lucie Rispal. Bonjour Lucie.
Bonjour Pierre-Hugues, bonjour à toutes et à tous.
Est-ce le début de la réplique d'Israël en Iran ?
Israël a lancé une attaque contre l'Iran, du moins c'est ce qu'affirment les agences de presse iraniennes, mais également la chaîne américaine ABC News, on en parle en début de journal. En France, au début du mois, les négociations conventionnelles entre les médecins et l'assurance maladie ont été suspendues. La Confédération des syndicats médicaux français accuse le gouvernement de l'avoir saboté. Et puis à l'approche des JO, les avocats se mobilisent en Ile-de-France. Ils alertent contre le risque d'embolie judiciaire, alors que 15 à 16 millions de visiteurs sont attendus pour les JO dans la capitale cet été.
Israël a lancé cette nuit une attaque contre l'Iran.
Une attaque en représailles aux frappes iraniennes du week-end dernier en Israël. Une affirmation de la chaîne ABC News qui cite un haut responsable américain, mais également une information des agences de presse iraniennes, les précisions de Maud de Bourquenay.
Oui, l'Iran fait état de 3 fortes explosions dans la province d'Ispahan, près d'une base militaire. Israël avait déjà annoncé son intention de riposter au raid iranien contre son territoire dans la nuit de samedi à dimanche. L'Iran a activé sa défense aérienne dans plusieurs provinces après des informations sur au moins une explosion dans le centre du pays, a indiqué l'agence de presse officielle iranienne IRNA. Plusieurs drones ont été abattus avec succès par la défense aérienne iranienne, mais il n'y a pas d'informations concernant une possible attaque menée à l'aide de missiles jusqu'à présent. Les vols commerciaux ont été suspendus à partir et à destination de plusieurs aéroports, dont ceux de Téhéran, selon l'agence iranienne de presse MER, qui cite des autorités aéroportuaires.
Et les sirènes d'alerte sont activées dans le nord d'Israël, selon l'armée. Toutefois, cette dernière ne souhaite pas commenter ces événements. L'ambassade des États-Unis à Jérusalem conseille donc à ses employés et aux membres de leur famille de ne surtout pas voyager en dehors des zones de Tel Aviv et de Jérusalem. L'armée israélienne qui mène aussi de nouvelles frappes meurtrières sur la bande de Gaza, dévastée par plus de 6 mois de guerre. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, déplore toujours un enfer humanitaire dans ce territoire. Les États-Unis ont mis fin hier au rêve d'adhésion des Palestiniens à l'ONU. Sans surprise, ils ont mis leur veto au Conseil de l'ONU. Depuis plusieurs semaines, les Palestiniens qui ont depuis 2012 le statut inférieur d'État non membre, mais observateurs, imploraient le Conseil d'accepter qu'un État palestinien prenne sa place légitime au sein des Nations Unies. En vain, donc, les États-Unis n'ont pas hésité à recourir à leur droit de veto qu'ils utilisent régulièrement pour protéger leur allié israélien.
Il est 7h32. Les citoyens indiens sont appelés aux urnes à partir d'aujourd'hui. Le scrutin va durer 44 jours.
Avec 970 millions d'électeurs, c'est la plus grande élection de tous les temps. L'actuel Premier ministre Narendra Modi est favori pour être élu pour un troisième mandat. Narendra Modi qui, en 10 ans, a mené une politique nationaliste hindoue, Suzanne Marion.
Son premier acte de campagne est symbolique de cette politique. En janvier, Narendra Modi a inauguré dans le nord du pays un temple hindou construit sur les ruines d'une mosquée. Le lieu de culte musulman a été détruit par des fanatiques hindous en 1992, provoquant à l'époque les pires émeutes de l'histoire de l'Inde. La construction de ce temple était une promesse du Premier ministre. Depuis 10 ans, il construit sa politique autour du concept de l'hindouïté, un ultranationalisme religieux, remettant en cause le caractère laïque de la démocratie indienne, alors que 16% des Indiens sont musulmans et 2% chrétiens. Conséquence, les droits des minorités religieuses ont reculé. En 2019, une loi a donné la nationalité indienne à certains réfugiés, à condition qu'ils ne soient pas musulmans. Et au quotidien, les violences ont augmenté. Par exemple, en 2023, le Forum Chrétien Uni, basé à New Delhi, a recensé 731 attaques contre des chrétiens, soit 10 fois plus qu'avant l'arrivée au pouvoir des nationalistes hindous.
Les précisions de Suzanne Marion.
En France, Gabriel Attal veut finir avec le pas de vague.
Le Premier ministre a déroulé hier sa feuille de route contre les violences impliquant des mineurs. Une série de propositions allant du durcissement de la réponse pénale à la responsabilisation des parents. Il a été question également du retour de l'autorité à l'école. Le Premier ministre a suggéré le retrait de points sur un examen du brevet ou du bac en cas de comportement violent. Une batterie de mesures beaucoup trop répressives selon Laurent Zamekowski, le porte-parole de la PEP, la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public.
On regrette, c'est que la grande majorité sont dans la répression plutôt que dans la prévention.
Malheureusement, ce qu'on aurait aimé entendre, c'est plutôt des moyens permettant de détecter de façon précoce les situations et donc de ne pas se trouver dans des situations de répression. Aujourd'hui, il faut aussi donner les moyens pour que ce qui existe déjà fonctionne avant de créer de nouveaux dispositifs qui ne pourront pas fonctionner si nous n'avons pas les moyens, notamment humains, pour les faire fonctionner. On a besoin de cette présence et cet encadrement de faire en sorte que les élèves soient moins livrés eux-mêmes qu'effectivement quelques-uns qui sont peut-être en souffrance et qui rayonnent sur les autres et créent des situations, puissent également être accompagnés. Donc il y a quand même une vraie nécessité aujourd'hui d'avoir un travail préalable d'accompagnement des élèves et des familles de manière à ce que ça puisse bien fonctionner.
Lors d'une émission spéciale sur BFM TV hier soir, le Premier ministre a aussi défendu son action, à commencer par le pas de hausse d'impôts cher à Emmanuel Macron et à sa majorité. Pour preuve, l'engagement présidentiel d'une baisse de 2 milliards des impôts pour les ménages sera tenu. Du moins, c'est ce qu'assure Gabriel Attal, qui l'a sorti néanmoins d'une mesure d'économie équivalente. Au chapitre judiciaire, deux fillettes de 7 et 11 ans ont été légèrement blessées hier lors d'une attaque au couteau menée à proximité de leur école à Souffelweyers dans le Bas-Rhin, et l'assaillant a été interpellé peu après. Les deux jeunes victimes sont sorties de l'hôpital et présentent des blessures physiques légères, selon la procureure de la République de Strasbourg.
Tout autre chose, les négociations conventionnelles entre les médecins et l'assurance maladie ont été suspendues au début du mois.
La Confédération des syndicats médicaux français accuse le gouvernement d'avoir saboté ces négociations avec les annonces de revalorisation de tarifs beaucoup plus faibles pour l'hôpital privé que pour le public et la possibilité de consulter un spécialiste sans passer par un généraliste. Le président de la Confédération, Franck Devuldé, appelle le gouvernement à rétablir la confiance pour permettre une reprise de ces négociations. Pour cela, il propose deux mesures prioritaires.
Il faut des écrits rétablissant la place essentielle du médecin de famille dans l'organisation du système de santé en France. Et puis d'autre part, nous attendons, côté médecin spécialiste, de rétablir la nomenclature des actes médicaux, c'est-à-dire l'ensemble des actes techniques de chirurgie, d'endoscopie, d'anesthésie. Ces actes n'ont pas bougé depuis des années et des années. Je suis gastro-entérologue. Le tarif de la coloscopie pratiquée en France est payé la même chose qu'il y a 30 ans, en 1994. Aujourd'hui, on vit sous un règlement arbitral, puisque les négociations avaient déjà échoué l'an dernier. Si les négociations n'aboutissaient pas, le règlement arbitral il peut durer jusqu'à 2028. Mais dans ces cas-là, le choc d'attractivité absolument nécessaire pour que les Français puissent être pris en charge correctement n'y sera pas. Et donc, on va avoir une désaffection de la médecine de ville. Donc, si on ne s'en donne pas les moyens, on va aggraver les difficultés d'accès aux soins des Français dans les toutes prochaines années.
À l'approche des Jeux Olympiques, les avocats se mobilisent en Île-de-France.
Ils alertent contre le risque d'embolie judiciaire alors que 15 à 16 millions de visiteurs sont attendus dans la capitale cet été. Les actes de délinquance risquent d'augmenter et avec eux, les condamnations. Or, nos prisons connaissent déjà un niveau de surpopulation inédit. Pour Fabien Arakelian, le vice-président du barreau des Hauts-de-Seine, il faut absolument limiter les incarcérations et procéder à des libérations anticipées.
On a une surpopulation carcérale qui est inédite. On a des conditions de détention qui sont indignes dans de nombreux établissements. Et il est évident que les Jeux Olympiques vont se traduire par des incarcérations vraisemblablement supplémentaires, par une réponse pénale dont on vient nous dire qu'elle doit être immédiate. Et une réponse pénale immédiate, c'est bien évidemment des comparutions immédiates. Et des comparutions immédiates, c'est de l'incarcération. Imaginons simplement des altercations, comme ça peut arriver, entre supporters d'équipes adverses. Voilà, il suffit qu'il y ait quelques faits de violence pour qu'on aboutisse, pourquoi pas, à des comparutions immédiates. Donc le système est d'ores et déjà à bout de souffle et les avocats que nous sommes alertons.
Il y a plus de 76 000 détenus en tout dans les prisons françaises.
Merci beaucoup, Lucie Rispal.
Et
vous voulez pas nous parler de Netflix ?
Bah, si vous voulez, si j'ai un petit peu le temps.
Vous l'avez.
Alors, Netflix, le géant américain, je sais pas si vous regardez Netflix.
Pas du tout. Pas du tout.
Ils ont gagné 9 millions d'abonnés supplémentaires au cours du premier trimestre 2024. Cela porte en fait au total à 270 millions leur nombre d'abonnés au total. Alors que de base, le marché s'attendait à ce qu'il y ait un ralentissement de la croissance de Netflix.
Donc, et vous regardez Netflix
toujours plus fort. Oui, oui. Oui.
Oui. Ah, vous avez une série à conseiller aux auditeurs ?
Je suis en train de regarder Le Jeu de la Dame.
Ah,
et,
d'accord.
Et ça me plaît bien finalement.
Eh bien, très bien. Et peut-être début, que mais... sur Netflix, vous pouvez retrouver aussi une série sur le pape Benoît XVI de Two Popes, je crois, qui parle de Benoît XVI et de François. Eh bien, le 19 avril, il y a 19 ans, jour pour jour, en 2005, le pape Benoît XVI était élu pape successeur de Saint-Pierre.